32. Si ceux qui sont présents dans la salle d'assemblée peuvent commencer à prendre place, s'il vous plaît. Et ce sera Sylvie Maisonnet qui fera l'appel. Je remercie Sylvie pour cette tâche.
J'attaque. On va attaquer l'appel. Donc, Damien Baldi, excusé. Bertrand Barrault. Célia Bernard. Valérie Bernard. Fabien Bessert. Colette Béthune. Grégory Bonnet. Martine Bonny. Hélène Boudon. Jean-Marc Boyer. Dominique Bria. Pascal Brun. Aude Burias. Olivier Chambon. Lionel Chauvin.
Présent.
Gérald Courtadon, il est en train d'arriver. Elisabeth Crozet. Présent. Jean-Paul Cuzin.
Présent.
Cédric Dauduit. Présent. Jean-Paul Delorme. Présent. Joël Michel Déré. Présent. Antoine Desforges. Éric Dubourgnon.
Pouvoir.
Jeanne Espinasse. Manuela Ferreira de Souza.
Pouvoir.
Stéphanie Flory Dutour. Sébastien Galpeillet, Jérôme Gomet, Lionel Gay, Jocelyne Glass-Lega, Éric Gold, Jackie Grand, Émilie Guédois-Vallée, Sylviane Kemiski,
pouvoir,
Sylvie Léger, Jocelyne Long, Jean-Pierre Luneau, Fabrice Magnier, Sylvie Maisonnet est présente. Anne-Marie Maltré.
Pouvoir.
Audrey Manubi. Marianne Marchi. Corinne Mielvac. Karina Monet. Flavien Neuvy. Pouvoir. Valérie Passarieux. Pouvoir. Jean-Philippe Perret. Pouvoir. Gilles Pétel.
Présent.
Catherine Pham. Anne-Marie Picard.
Pouvoir.
Serge Pichot. Pouvoir. Hervé Prononce. Valérie Prunier, Clémentine Reynaud, Pierre Riol, Cédric Roujol, Michel Sauvade, Karim Srika, Éléonore Zépagnac, Isabelle Vallée, Rémi Vessière et Alexandra Virlogeux.
Merci Sylvie. Bien écoutez, maintenant que l'appel est fait, je vous propose qu'on puisse attaquer cette journée. Donc je souhaitais bien évidemment vous saluer toutes et tous. Pour ceux que je n'ai pas pu serrer la main tout à l'heure, je souhaite également saluer l'ensemble des services qui ont préparé ces deux jours de session et l'ensemble des services du département. Je souhaite également saluer les remplaçants qui sont éventuellement présents et l'ensemble des internautes qui vont nous regarder ou qui vont prendre part à notre session en visio. Je souhaite bien évidemment vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue. Rapidement pour rappel, nous avons une réunion de présidents de groupe ce matin et donc vous vous rappelez que nous avons sur table, j'ai reçu 5 vœux qu'on prendra bien évidemment en fin de session, donc plutôt demain. Vous dire que ce matin, donc il s'agit des discours de politique générale. Ensuite, nous aurons la coupure à la fin des discours de politique générale. Et ensuite, nous attaquerons cet après-midi de 14h à 18h sur le débat d'orientation budgétaire. Et on réattaquera demain matin à 8h30 la session pour finir peut-être demain l'ACP. Ou autrement, mais écoutez, ce sera mercredi, mais le mercredi n'était pas prévu. Donc j'entends mes collègues qui me disent le mercredi n'est pas prévu. Donc il n'est pas prévu, donc on devra s'arrêter demain soir. On verra l'heure à laquelle on s'arrêtera. Voilà. Écoutez, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, hormis vous rappeler Ensuite, le sens des délibérations. Donc, je vous ai bien dit l'Europe cet après-midi. Et ensuite, nous serons demain sur la session plénière avec la troisième commission, la première commission, la quatrième commission, la deuxième commission, la cinquième commission. C'est toujours l'arbitrage selon ce que nous avions sur la session précédente. Et donc, voilà le sens des sessions, de la session et des rapports et des commissions. Ensuite, également, vous rappelez que nous avons 2 jours de session, je vous l'ai déjà dit. Il y a quelque chose qui m'échappe, mais ça va me revenir. Lionel, oui ? Non, 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 je n'avais pas. Je vous ai déjà salué ce matin, donc pas de souci de mon côté. Vous redire, ça y est, ça me revient. Vous redire que comme la dernière session, j'avais eu un appel du pied en me disant qu'on démarrait toujours de la droite vers la gauche, eh bien cette fois-ci, nous allons démarrer au centre, vers la gauche, et nous allons revenir vers la droite ensuite. Donc ce sera des calculs où je demanderai au cabinet de bien faire attention à chaque fois qu'on puisse remettre également le curseur. Vous savez qu'on l'a déjà sur les délibérations et sur les prises de parole des groupes. Donc je remercie Karina Monnet d'avoir accepté de démarrer au centre, cette fois-ci vers la gauche. Et donc je ne serai pas plus long, vous souhaitez une bonne session, une bonne CP, 2 jours de travail pour préparer notre budget que nous voterons et que nous mettrons en délibération au mois d'avril. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle session et je laisse la parole donc au groupe Proximité et Territoire et à notre collègue Karina Monnet. Alors, ce ne sera pas Karina Monnet, c'est le groupe de Karina Monnet et de Joël-Michel Déré. Et ce sera Joël-Michel Déré qui fera l'intervention pour le groupe.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre des orientations budgétaires de notre collectivité dans un contexte socio-économique et géopolitique plutôt anxiogène pour nos concitoyens. Ce 24 février est un jour bien triste. Depuis 3 ans, la Russie a envahi une partie de l'Ukraine et ne cesse depuis ses coups de boutoir contre les démocraties occidentales. Nous disons simplement aux Ukrainiens qui ont trouvé refuge dans notre département, nous demeurons à vos côtés. Notre pays a enfin adopté sa loi de finances pour 2025. Le gouvernement a modéré l'effort budgétaire demandé aux collectivités locales au titre de leur contribution au redressement des comptes publics. Mais cet effort n'en demeure pas moins élevé pour les conseils départementaux, puisqu'il représente 40% de la participation totale des collectivités locales. À cela s'ajoute le gel de la TVA qui va priver les départements de ressources financières dynamiques, toutefois vitales pour amortir le niveau record de leurs dépenses sociales. Pour l'État, quelles sont donc les missions qu'un département devrait moins bien assurer ? L'entretien des routes et des collèges, la protection de l'enfance, les aides aux personnes âgées ou en situation de handicap. Dans ce contexte, vous avez priorisé vos engagements financiers. L'objectif est de ne pas trop dégrader les ratios financiers de notre collectivité et de retrouver une trajectoire budgétaire soutenable. Vous dégagez des marges de manœuvre en fonctionnement pour faire face à l'augmentation des frais de séjour dans les secteurs du handicap et de l'enfance. Vous lissez dans le temps l'exécution des investissements pour être en capacité de réaliser le plan Marshall des collèges, mesure phare du plan stratégique Horizon 2030. Reste à savoir si vos orientations budgétaires permettront de répondre en proximité aux besoins des Puy-de-Dôme. Nous en débattrons cet après-midi lors de la présentation du ROB. Mais nous souhaitons pointer dès ce matin plusieurs points de vigilance. Notre collectivité doit orienter sa politique d'investissement vers un aménagement plus durable de notre territoire. Les mobilités ne peuvent pas faire les frais de vos priorisations budgétaires. Moins de crédits sur l'entretien courant du réseau routier entraînerait à plus long terme des travaux de requalification plus lourds et plus coûteux. La politique de contractualisation avec les communes et leur intercommunalité doit mieux accompagner celles d'entre elles qui s'engagent dans la réhabilitation durable d'équipements d'intérêt départemental, tels que les gymnases communaux utilisés par nos collégiens. Notre collectivité doit maintenir un soutien renforcé aux plus vulnérables en tout point du territoire. Nous sommes inquiets de votre volonté de réexaminer à la baisse des crédits alloués à la politique de la ville. Quel message adressez-vous aux habitants des QPV ou des quartiers de veille en matière d'inclusion sociale ? Les orientations budgétaires sur la prise en charge des personnes âgées et dépendantes sont peu précises sur les modalités retenues pour soutenir les EHPAD en difficulté. Nous devrons débattre des conditions de reconduction de CNR en fonctionnement ou en investissement en direction de ces établissements. Pour le moment, vous allez les autoriser à instaurer une tarification différenciée, pouvant aller jusqu'à 35% entre un bénéficiaire de l'aide sociale et les autres résidents. Cet automne, le Conseil de l'âge conseillait de fixer ce taux à 15% maximum pour ne pas mettre en danger le reste à charge non finançable des personnes âgées modestes et de leurs familles. Enfin, notre collectivité doit cesser de se disperser en dehors de son champ de compétences. Étant donné nos contraintes financières, est-il opportun de faire renaître de ses cendres le comité départemental du tourisme ? Non. En revanche, il serait plus pertinent de mutualiser nos actions en faveur de la promotion du territoire avec les politiques touristiques qui sont déjà structurées et déployées par les intercommunalités. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Alors maintenant, je laisse la parole au groupe Gauche sociale écologiste solidaire par nature. Je laisse la parole à Elisabeth Crozet et j'en profite pour dire à la régie, je n'ai rien à l'écran depuis que nous avons démarré. Merci. Elisabeth Crozet.
Monsieur le Président, mes chers collègues, je souhaiterais commencer cette intervention en partageant notre sentiment de crainte et de sidération devant l'actualité internationale. Que ce soit dans le conflit entre Israël et Palestine ou la restitution des corps des otages du 7 octobre vient jeter de la poudre sur le feu, ou les atrocités commises de part et d'autre, instrumentalisées par les extrémistes de tous bords, viennent éloigner la possibilité d'une paix durable. À l'échelle mondiale, le rapprochement de Donald Trump et de Vladimir Poutine vient légitimer l'agression de la Russie en Ukraine et réussit même à la faire passer pour responsable du conflit. Partout, la guerre et la haine de l'autre gagnent du terrain. Comme dans les années 30, l'hypothèse en Europe et au niveau mondial d'un retour de la bête immonde se renforce. Je reprendrai ici les mots d'Anne Sinclair dans un billet dans le quotidien Libération, tant il traduit ce sentiment que personne ne veut accepter de voir ce qui semble si inéluctable. Elle écrit « Quand on lit les mémoires de Churchill, on est abasourdi de la façon dont les grandes puissances d'alors, la France et l'Angleterre, ont pu s'abîmer en vaines querelles alors que les plus grands dangers s'amoncelaient devant nous. » Cette actualité terrifiante a déjà des répercussions sur la politique nationale et départementale et nous craignons que cela continue. Pour revenir à des enjeux plus départementaux, je souhaiterais évoquer avec vous les 20 ans de la loi du 11 février 2005 sur le handicap. Car 20 ans après sa promulgation, le bilan reste mitigé. Si des avancées ont pu voir le jour, inclusion, droit, accessibilité, et si certains regards ont changé, notamment depuis les Jeux paralympiques de Paris 2024, l'élan retombe comme un soufflet. De l'engagement de 2005, qui promettait l'égalité des droits et des chances aux personnes en situation de handicap, reste un goût amer d'inachevé. Quotidiennement, les difficultés et freins sont encore nombreux pour les déplacements, l'accès aux soins, au logement, à l'éducation, aux loisirs ou même au monde du travail. En tant que département, nous devons continuer à œuvrer aux côtés de l'État et des associations afin de permettre un jour que la société change et soit inclusive pour toutes et tous. Cet anniversaire de la loi doit nous permettre de marquer un point d'étape et de réaffirmer tout ce qui nous reste à accomplir. Alors que vient de s'ouvrir le Salon de l'agriculture, nous souhaiterions simplement rappeler que la loi d'orientation agricole adoptée la semaine dernière grâce à une coalition de la droite et du gouvernement ne nous apporte pas satisfaction. Tout d'abord, parce qu'elle ne répond pas à la colère du monde agricole en n'apportant aucune mesure en faveur d'un meilleur revenu pour les agriculteurs, en ne proposant rien non plus pour l'incitation à l'installation ou à la transmission des exploitations en régulant le foncier agricole. Ensuite, parce qu'elle comporte un ensemble de reculs environnementaux inacceptables, notamment l'affaiblissement de l'interdiction de certains produits pharmaceutiques ou la dépénalisation de certaines infractions environnementales. Lors de notre dernière séance, nous avions évoqué la question de la subvention versée à la FAL 63. L'exécutif, de façon unilatérale et par la voix de son vice-président à la culture, avait fait le choix d'arrêter purement et simplement le financement de cette structure. Pourtant, face à la levée de boucliers sur divers bancs de l'Assemblée, refusant de voir cette structure emblématique du mouvement d'éducation populaire mise à mal, une commission a été créée afin de discuter du versement de la subvention. La première réunion, qui s'est tenue la semaine dernière, n'a pas encore pu aboutir à une résolution et nous resterons vigilants et intransigeants jusqu'à ce que les financements puissent être rétablis et sanctuarisés. Par ailleurs, le cas de la FAL, prévenu du non-versement de sa subvention de 105 000 euros au mois de décembre de l'année écoulée et après avoir pendant un an effectué les actions pour lesquelles elle était financée jusqu'à présent, pose la question de la nécessité de sécuriser les associations et partenaires de notre collectivité par des conventions pluriannuelles, leur permettant ainsi de ne pas vivre chaque année dans l'incertitude. Je souhaiterais également aborder avec vous la question des collèges. En effet, nous avions dans le ROB 2023, dans le cadre du ROB 2023, déposé un amendement afin que soit respecté un fonds de roulement de 60 jours pour permettre aux établissements de ne pas se trouver en difficulté financière. Cet amendement, bien que majoritaire, n'a jamais été réellement appliqué et il a été vite oublié une fois passé le ROB 2024. Le résultat de cet abandon, c'est que les établissements se trouvent dans des difficultés grandissantes. C'est le cas du collège Albert Camus qui fait l'objet d'une délibération dans cette session afin de lui octroyer une aide exceptionnelle suite à une situation de défaut de paiement en décembre dernier. Confronté à la hausse du coût des matières premières et des fluides, nombreux sont les établissements qui possédaient il y a peu des réserves confortables mais qui aujourd'hui doivent affronter des situations financières inconfortables. Nous lisons dans le ROB que des réflexions sont en cours afin d'étudier des solutions de financement des collèges qui seraient compatibles avec les finances de la collectivité. Nous émettons donc quelques craintes légitimes concernant les arbitrages à venir. Le rapport d'orientation budgétaire laisse apparaître une situation financière de notre collectivité, pour le moins préoccupante. Le résultat final de l'année 2024, déficitaire de 19 millions d'euros, malgré l'utilisation de l'ensemble des réserves de DMTO, nous laissait à penser que des économies d'ampleur allaient être envisagées par l'exécutif. La confirmation a eu lieu en commission 3 lundi dernier d'un plan d'économie de 30 à 40 millions et d'une réflexion sur la suppression de 30 postes au sein de la collectivité. Idem en commission 1. Nous avons pu voir que les 3 millions d'investissements sur l'habitat risquent de créer une rupture dans les engagements antérieurs envers les bailleurs et les projets. On sait que depuis 2015, c'est autour de 4 à 5 millions qui répondent aux besoins. Bien sûr, ce sont les territoires qui sont les premiers intéressés aux opérations de logement. Notre soutien est déterminant. Le ton est donné pour 2025. S'il est certain que des arbitrages seront nécessaires en réponse à la situation financière de notre collectivité, nous serons particulièrement vigilants aux choix opérés. Le ROB reste souvent évasif afin de ne pas réellement expliciter les arbitrages qui sont pourtant d'ores et déjà décidés et actés. À la lecture du document, nous voyons clairement quelles seront les politiques impactées en priorité. Pour en citer quelques-unes avant de développer davantage dans les débats suivant le rapport, nous ne pourrons accepter les restrictions annoncées sur la tarification solidaire, la restauration scolaire, le fonctionnement des collèges, la politique de la ville ou l'habitat. Tout comme nous n'accepterons pas, sous prétexte d'économie financière, que l'Europe envisage de renforcer les contrôles sur les bénéficiaires du RSA. Nous savons toutes et tous que la question du non-recours est un phénomène bien plus important que la fraude. Nous ne sommes pas dupes sur la stratégie visant à faire passer les bénéficiaires des minima sociaux comme les responsables de la situation budgétaire. Le choix politique de préférer la répression des plus fragiles au détriment de l'accompagnement social ne peut que nous révolter. Je conclus car je sais que les débats seront longs cet après-midi. Je me souviens d'un discours de politique générale de notre groupe il y a 2 ans, faisant suite aux annonces du plan Horizon 2030, où nous demandions si la droite départementale n'était pas, contre toute attente, plus cigale que fourmi. Le mandat n'est pas fini, mais maintenant que les DMTO ont fondu et que la bise est venue, l'exécutif se trouve visiblement bien dépourvu. Je vous remercie.
Merci. Maintenant, la parole est à la gauche 63, solidaire par nature. C'est Grégory Bonnet qui prendra la parole.
Merci. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs les agents de la collectivité, mesdames, messieurs, je souhaiterais tout d'abord saluer la mémoire de Monsieur B, agent de notre collectivité qui a mis fin à ses jours sur son lieu de travail. Nos pensées accompagnent sa famille. Sur les plans sociétaux et politiques, nous traversons des crises majeures. À l'échelle internationale, les conflits sont nombreux et dévastateurs. Les impérialismes se renforcent et les institutions censées les protéger les plus vulnérables semblent inefficaces. La menace fasciste s'accentue et la désinhibition de certains fait froid dans le dos. En France, l'année a débuté avec la nomination du gouvernement de François Bayrou. La ligne politique, au travers de son discours de politique générale et de ses premières propositions, est loin de répondre aux urgences sociales et écologiques. Au contraire, elle nous porte vers un accroissement des inégalités et des fractures de notre société. Ce gouvernement, comme les précédents, a usé de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter un budget qui aggrave la précarité et l'inaction climatique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2,5 milliards d'euros en moins pour la transition écologique. 2,2 milliards de coupes sur les moyens des collectivités. 1 milliard de moins pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et des reculs significatifs pour la culture, le sport, l'hôpital et tant d'autres secteurs essentiels. Notre collectivité va subir ces choix désastreux. Ce contexte budgétaire national, conséquence d'une politique libérale menée tambour battant et d'une gestion calamiteuse des deniers publics durant les dernières années, impacte directement notre collectivité et nos capacités d'action pour les Puy-de-Moise et les Puy-de-Moins. Chers collègues, la bienveillance, la complaisance de nombreux d'entre vous envers les politiques budgétaires et libérales des gouvernements qui se succèdent depuis 2017 nous revient désormais en pleine figure. Or, les collectivités locales, tenues aux équilibres budgétaires et premier soutien des investissements et entreprises locales, ne sont pas responsables de la faillite budgétaire et sont au contraire, nous le savons tous ici, une partie de la solution face aux diverses crises que nous devons affronter. Lors de cette session, nous examinerons les orientations budgétaires proposées par l'exécutif pour 2025. Celle-ci nous alarme car elle manque clairement une diminution des moyens alloués aux politiques essentielles de notre département. Ces orientations fragilisent le cœur même de nos compétences départementales, les politiques sociales. Pourtant, nous savons que la demande en matière de services publics s'accentue, que les inégalités se creusent, que l'inflation pèse sur les ménages, que l'urgence climatique impose des actions radicales. Nous espérions des propositions à la hauteur des enjeux du moment. Au lieu de cela, sont décrites une série de coupes par rapport au budget 2024. 2,37 millions d'euros d'investissement en moins sur la politique du logement, soit une baisse de 44% annoncée, et 2 millions en moins en fonctionnement, soit 38,84%. Alors que l'accès à un logement digne est une priorité pour nos concitoyens, notamment les publics cibles de notre collectivité, les Puy-de-Moise, les Puy-de-Moise les plus fragiles. Une baisse de 5,6 millions d'euros des moyens pour l'insertion, soit 4,81%, alors même que la loi sur le plein emploi impose aux bénéficiaires du RSA 15 heures d'activité bénévole. Impossible, avec moins de moyens, d'accompagner dignement ces personnes. 3,6 millions d'euros en moins sur la politique en faveur des personnes âgées, une baisse de 4%, alors que le secteur est déjà en tension et que les besoins explosent. Et il n'est donné, dans le rapport qui nous a été transmis, nul détail quant aux dispositifs qui seraient impactés. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les vice-présidentes et vice-présidents, le budget de 2025 de la collectivité des solidarités ne peut faire peser le poids des restrictions sur les plus fragiles. Il ne peut pas sacrifier les politiques sociales sur l'autel de l'austérité imposée par l'État. Au contraire, nos compétences obligatoires doivent garder la priorité et être soutenues. Ensuite, doivent s'exercer les arbitrages politiques sur les compétences facultatives. À cet égard, je voudrais souligner que votre plan stratégique départemental prévoit 5 piliers, dont celui de la transition écologique. Au regard des orientations que vous proposez dans le rapport, la transition ressemble plus à un pied d'argile qu'à un pilier capable de supporter le poids de l'adaptation au dérèglement climatique. 60 000 euros en moins en fonctionnement, soit moins 9%, 310 000 euros en investissement, soit moins 14%. Clairement, les choix de notre groupe seraient différents. Un budget qui viendrait sanctuariser la solidarité et la justice sociale, un budget qui doterait la politique de transition écologique de moyens à la hauteur de l'urgence climatique, un budget qui défendrait les services publics et refuserait de se plier à des logiques de démantèlement imposées par un gouvernement aveugle et indifférent aux réalités de nos territoires. Enfin, je souhaite évoquer les inquiétantes remontées de terrain qui nous sont faites depuis quelques mois concernant un mal-être ambiant. Une direction politique peu lisible pour les agents, une difficulté pour les cadres de notre collectivité à être trait d'union entre les directions centrales et leurs équipes. Ces éléments doivent nous interpeller, nous interroger sur le bien-être au travail des agents et amener des mesures concertées et adaptées. Aussi, la formation spécialisée de la santé, sécurité et des conditions de travail et le comité social territorial doivent pouvoir, dans les meilleurs délais, travailler sur cette problématique. Je vous remercie pour votre attention.
La parole maintenant est au groupe indépendant et démocrate. Et donc je laisse la parole à Cédric Roujol.
Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une session articulée autour du rapport d'orientation budgétaire. Au lendemain des élections législatives allemandes, le monde anxiogène dans lequel nous vivons directement ou indirectement se confirme. Le nouveau président des États-Unis place l'Union européenne au pied du mur et lui demande de garantir la paix. Oui, les Européens redécouvrent l'importance des dépenses de sécurité qui pèsent peu actuellement et qui ne vont que se développer dans les années à venir. Tout cela impactera nécessairement les politiques publiques en France, pilier de la sécurité en Europe. Des décisions nationales, régionales, départementales seront inévitablement impactées par la nécessité de préserver la paix et d'investir des moyens. Tout cela n'impacte pas directement aujourd'hui notre département. Nous conservons une qualité, une valeur et nous avons envie de nous engager. Le travail de préparation de ce futur budget se fait et doit se faire maintenant et nos ambitions se poursuivent en termes d'investissement pour l'avenir. Le travail mené pour conduire la transition écologique au travers des économies d'énergie avec le plan Marshall des collèges va permettre d'avoir des résultats palpables et c'est déjà le cas. L'animation, la conduite des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable au travers de la SAS Puy d'énergie permet également de créer les conditions d'une meilleure indépendance énergétique dans nos territoires. Dans un contexte contraint, dans une période morose, il est important de pouvoir viser plus loin pour ne pas subir l'avenir. Le risque d'oublier les investissements de demain et les engagements d'aujourd'hui par peur d'événements géopolitiques doit être combattu en permanence. Le travail que nous menons et les propositions que nous faisons avec notre groupe n'ont donc qu'un seul but, poursuivre avec bon sens les politiques publiques engagées dans les domaines de compétences du département. Donc continuons et n'ayons pas peur d'être nous-mêmes. Merci.
Merci. Maintenant, la parole est au groupe Union des Républicains Indépendants. Jean-Marc Boyer.
Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, dans un contexte géopolitique de plus en plus inquiétant, il est impératif que l'Europe trouve une souveraineté et une indépendance politique, financière et militaire. La France, dans ce contexte international, a le devoir de mettre de l'ordre dans ses finances. Or, depuis 50 ans, depuis les années Giscard, la France vote des budgets en déficit. Le pays a une dette de plus de 3 200 milliards d'euros. Réduire la dette est une nécessité absolue. Et comme l'a dit Christelle Morancet, présidente UDI de la région Pays de la Loire, la France est shootée à la dépense publique. Michel Barnier a fait les frais de sa volonté d'économie et de réduction des dépenses en subissant une censure avec l'alliance honteuse et irresponsable du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National. François Bayrou, pour l'instant, étant moins ambitieux sur les mesures d'économie et en cédant aux caprices du Parti Socialiste, a réussi à sauver son budget 2025. Bien sûr, il fallait un budget à la France et les Républicains ont amendé un projet de loi de finances qui prévoit de redresser les comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit public à 5,4% du PIB. Dans cet objectif, une baisse des dépenses de l'État et des taxes exceptionnelles sur les plus fortunés et les plus grandes entreprises sont en particulier proposées et devraient apporter 8 milliards d'euros au budget. Aussi, afin de faire face à la hausse de leurs dépenses, les départements devront relever le plafond des droits de mutation de 4,5% à 5%. Cette première session de l'année 2025 correspond à celle du rapport des orientations budgétaires qui, en amont du budget à venir, fixe le cap de l'action du département pour l'année qui s'ouvre. Nous aurions dû tenir cette session en fin d'année dernière afin de pouvoir engager dès janvier les moyens de la collectivité en direction du service depuis 2 mois. Que ce soit en investissement ou en fonctionnement, le rôle du conseil départemental dans le quotidien des habitants, associations, communes ou encore partenaires dans toute la diversité de leur champ d'action est essentiel à la bonne santé sociale et économique de notre département. Mais malheureusement, de dissolution en censure, notre pays a été privé de la stabilité gouvernementale, indispensable à l'élaboration du budget de la nation. Par ricochet, c'est le budget départemental qui, d'un seul coup, est entré dans le brouillard. Si bien que, privé de visibilité, le président a pris la sage décision de le reporter au mois d'avril prochain. Pouvons-nous dire aujourd'hui que l'horizon est plus dégagé ? Pas vraiment, car l'absence de majorité à l'Assemblée nationale demeure. La 4e République est de retour et la politique de la France, suspendue aux alliances et mésalliances des partis et de certains en particulier, se retrouve davantage entre les mains de ceux qui existent par leur capacité à détruire que de ceux qui ont la volonté de construire. Cependant, le point positif est que nous avons depuis quelques semaines un budget imparfait, certes, mais il a le mérite de donner un cadre d'action et une visibilité minimale. Pour nous, Conseil départemental, cela confirme le contexte budgétaire contraint dans lequel nous allons désormais devoir déployer nos politiques publiques, nos politiques de solidarité. En effet, les finances de la France sont gravement dégradées. Elles sont même dangereusement dégradées. Cette situation vient de loin et n'est pas exclusivement imputable à la politique menée ces dernières années. Toutefois, l'instabilité institutionnelle dans laquelle nous sommes plongés depuis le mois de juin 24, aggrave singulièrement notre situation. Elle dégrade également fortement le moral des Français et fait grandir une anxiété dont rien de bon ne peut naître. D'ailleurs, craignant d'avoir plus à perdre qu'à gagner au sombre jeu du stop ou encore gouvernemental, une partie des censeurs du nouveau Front populaire de la première heure a cette fois-ci retenu ses pulsions destructrices en ne votant pas la censure du gouvernement Bayrou. Changement de pied, donc, mais jusqu'à quand ? À ce sujet, je tiens à préciser, à titre personnel, que je ne tiens pas un double langage au Sénat et ici au Conseil départemental. Ce que je dénonce au niveau national, je le dénonce aussi au département. L'esprit de responsabilité des parlementaires doit l'emporter sur l'insatisfaction, les lubies et les volte-face politiciens. À ce titre, je voudrais faire une précision concernant la loi d'orientation agricole qui a été votée la semaine dernière en commission mixte paritaire. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, cette loi d'orientation agricole est décisive pour les agriculteurs et pour notre agriculture française, en particulier sur les revenus agricoles, en particulier sur la transmission des exploitations avec la création d'un guichet unique, en particulier sur la lutte contre la concurrence déloyale, en garantissant la viande française, en interdisant les surtranspositions qui existent, en particulier dans les domaines phytosanitaires, en ayant aussi des dispositions concernant l'accès à l'eau. Enfin, je voudrais préciser, pour ceux qui doutent encore de la capacité de nos agriculteurs, qu'une étude des économistes, qui est une revue anglaise, a titré dernièrement que l'agriculture française, pour la 3e année consécutive, l'agriculture française est la plus vertueuse au monde dans tous les domaines concernant la biodiversité. L'expérience nationale nous invite donc à tirer un certain nombre d'enseignements sur l'action de nous, élus locaux, devant déployer au service de la stabilité et d'efficacité des politiques départementales. À ce titre, je tiens à remercier notre président qui, malgré les difficultés, ne cède ni à la panique, ni au désespoir, ni aux surenchères. Je remercie également ses vice-présidents qui pilotent leur politique au plus juste sans altérer leur mise en œuvre au plus près depuis 2 mois. Il faut en effet souligner qu'à la lecture du ROB, nous ne pouvons que saluer la capacité du Conseil départemental du Puy-de-Dôme à encaisser le double choc de la hausse des dépenses imposées par l'État et de la baisse des recettes liées à la conjoncture. Les orientations données s'inscrivent dans la droite ligne des axes d'action déterminés au début du mandat. Cette année encore, le département investira 107 millions d'euros dans ses collèges, sur les routes, dans les EHPAD, pour la jeunesse, mais aussi en faveur de la transition écologique, de la gestion de l'eau, de la santé ou encore des projets des communes. Ce seront également 108 millions d'euros de commandes publiques injectées dans l'économie, dont plus de 60% seront à destination d'entreprises puy-de-dômoises. Derrière ces chiffres, ce sont des emplois et donc le pouvoir d'achat de centaines de salariés, d'artisans et d'entrepreneurs. Et ce n'est surtout pas ce que l'on peut appeler un budget d'austérité. L'ambition est maintenue, les moyens continuent d'être mobilisés. Au milieu du paysage des départements de France, le Puy-de-Dôme fait d'ailleurs partie de ceux qui, pour le moment, se maintiennent à flot et peuvent continuer à assumer pleinement leur mission. Près de 40 d'entre eux sont au bord de la cessation de paiement. Certains en sont réduits à des coupes drastiques dans les dépenses ou les effectifs de leur collectivité. Cette situation concerne des départements de toute sensibilité, du Parti socialiste aux Républicains. Et je vais vous en citer quelques-uns. Les Ardennes, LR, suspension des investissements routiers. Le Cher, LR, gel des aides aux communes en 2025. Les Côtes d'Armor, PS, suppression de 60 postes 2025 à 2027. Le Gard, PS, 55 millions d'économies. Le Gers, PS, moins de 1,5 million d'euros de subventions aux associations. La Drôme, LR, abandon du soutien à territoire zéro chômeur. La Gironde, PS, l'aide aux communes divisée par deux. L'Hérault, PS, suppression à 100% du budget de la culture. Haute-Marne, LR, diminution de 58% des aides aux communes. Pyrénées-Orientales, PS, baisse des investissements, réduction des aides aux communes. Et je m'arrêterai là, il y en a encore beaucoup d'autres. Voilà qui a de quoi nous inquiéter et nous inviter à sortir des discours convenus et idéologiques pour épouser la réalité. L'argent public se fait rare, reste plus que jamais précieux et nous devons en faire usage avec la plus grande pertinence. Car les 10 exemples cités illustrent ce qui aurait pu se passer si le conseil départemental du Puy-de-Dôme n'avait pas eu une gestion saine et prudente de ses propres finances. Dans les premières années du mandat, et alors que les recettes fiscales étaient historiquement dynamiques, nous avons fait le choix de mettre en réserve près de 30 millions d'euros et de nous désendetter. Que n'en avons-nous pas entendu alors ? Il fallait financer sans discernement les associations, les structures, les partenaires, au-delà même de leurs besoins et en dehors de nos responsabilités. L'invocation du principe de solidarité suffisait à justifier des propositions en réalité court-termistes et destructrices. Il fallait en somme cramer la caisse. Je veux saluer le travail remarquable et l'engagement sans faille de notre vice-président finances, Jérôme Gomet. Par sa claire vision des finances départementales, il a su en période de beau temps budgétaire anticiper en créant cette épargne de réserve pour les jours où les temps de vaches maigres reviendraient. Comme le diraient nos anciens avec leurs mots de pleine de sagesse, nous avons constitué une prudente poire pour la soif. C'est ainsi que depuis 2023, nous avons pu absorber le choc budgétaire lié au contexte national et international sans couper dans nos budgets. En deux ans, en 2023 et 2024, les 30 millions d'euros ont été réinjectés pour maintenir un niveau d'engagement de la collectivité. C'est cela une bonne stratégie financière et permettez-moi de vous le dire, un bon vice-président aux finances. Il met les finances en ordre pour servir les politiques dont nous avons la responsabilité et que nous définissons comme prioritaires. Je citerai simplement deux champs d'intervention sur lesquels l'action renforcée du département a permis de franchir un cap considérable. La protection de l'enfance et le SDIS. Concernant la protection de l'enfance, l'organisation d'une session extraordinaire en fin d'année dernière a permis d'expliquer en toute transparence les résultats obtenus au service de la qualité de l'accueil des enfants confiés. Si nous avons remis en place une méthode et des principes d'action, nous avons également consacré à cette politique un niveau d'investissement jamais atteint, plus 43% en fonctionnement et plus 1834% en investissement. Nous voyons aujourd'hui que la structure s'apaise, l'accueil des enfants s'améliore, le nombre de places augmente et tout cela dans l'intérêt supérieur de l'enfant que nous ne perdons jamais de vue. C'est un choix politique fort sur lequel nous avons su fédérer les énergies et mobiliser les moyens. Encore une fois, merci Éléonore pour ce travail intense au service d'une cause si noble. S'agissant du SDIS, quelle transformation, là aussi, La mobilisation de 10 millions d'euros supplémentaires depuis le début du mandat en direction du SDIS accompagne l'évolution de la structure au service de la protection civile depuis 2 mois. Le SDIS, sous la présidence de Jean-Paul Cuzin, a franchi un cap. Nous pouvons dire que nous sommes désormais pleinement entrés dans la départementalisation. Nos pompiers sont mieux équipés, les matériels sont renouvelés, nos casernes modernisées, la formation améliorée, l'organisation territoriale adaptée avec le SDAC. Tout cela est un gage de sécurité renforcée pour l'ensemble de la population puy-de-dômoise et l'assurance de conditions d'intervention améliorées pour nos 4000 pompiers professionnels et volontaires. Merci Jean-Paul et à ton conseil d'administration pour ce pilotage stratégique dont les fruits sont désormais non seulement visibles, mais surtout appréciables pour et par la population. Ces deux exemples sont, je l'espère, suffisamment évocateurs, pour illustrer ce que signifie, selon nous, faire de la politique. Il ne s'agit pas de reproduire les errements et les caricatures dont la vie publique nationale est malheureusement riche. Nous veillons à être à l'écoute de nos habitants, à hiérarchiser leurs attentes, et ils le savent bien, tout n'est pas possible tout de suite, maintenant. Puis à définir des politiques autour d'actions concrètes, soutenues par des choix budgétaires assumés. C'est cela, mes chers collègues, que nous, au groupe Union des Républicains, impulsons aux côtés du président Chauvin et de son exécutif pour faire avancer le Puy-de-Dôme sur le chemin d'amélioration du bien commun. Cela veut dire pour nous, élus de cette institution, qu'il faut faire des choix et que tout n'est pas possible simultanément. En 2025, et parce que nous étions désendettés au début du mandat, nous pouvons mobiliser l'emprunt pour continuer à creuser le sillon initié en 2021. Sans cette anticipation, le Puy-de-Dôme serait aujourd'hui dans la situation dramatique des 40 départements au bord de la faillite. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des choix et leurs conséquences. Et je suis fier de faire partie d'une équipe qui peut dire aujourd'hui qu'elle a, par ses choix budgétaires, protégé nos départements et ses habitants de coupes drastiques. Nous sommes cependant, à partir de cette année, sans filet. Il n'y a plus de réserve et chez nous, il n'y a pas d'argent magique. Nous allons donc devoir être vigilants et responsables ensemble pour ne pas déstabiliser notre institution, ni budgétairement, ni politiquement. Faudra-t-il redéployer nos dépenses, comme cela a pu se faire par le passé, pour accompagner, par exemple, l'évolution de la PCH? Faudra-t-il pour cela aller plus loin dans l'évaluation de l'efficacité de nos politiques publiques? Faudra-t-il réinterroger certaines aides ou dispositifs considérés comme acquis par la force de l'habitude? Il ne faut rien s'interdire, a priori. C'est en période de tension budgétaire et il n'y a pas d'autre choix que d'en faire. C'est aussi ce que nos concitoyens attendent de nous, savoir dire oui et s'engager, savoir dire non et accompagner. Les élus de notre groupe sont prêts, Monsieur le Président, à faire des choix à vos côtés, car nous partageons votre cap et savons qu'au regard des résultats déjà obtenus, qu'il est bon pour le Puy-de-Dôme, ses habitants et son avenir. En conclusion, le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2025 traduit la capacité préservée de notre collectivité à mettre en œuvre ses missions de service public dans la diversité de ses champs d'intervention. Et il n'y aura donc pas de coupe, d'abandon de politique, de renoncement. Il faudra cependant de la souplesse et de l'adaptabilité pour ajuster les moyens dans un double objectif. Maintenir la stabilité de notre institution et fournir les services attendus par notre population. Je suis convaincu que notre action, parce qu'elle est concrète, en proximité et en solidarité, peut apporter une dose de sérénité à nos concitoyens. Au-delà même de nos réalisations et des enjeux financiers, montrons que nous sommes capables de donner des raisons d'espérer, des raisons de croire en l'avenir. Voilà, mes chers collègues, le sentiment que m'inspire la lecture du robe. Je ne partage pas le pessimisme des oiseaux de mauvais augure qui ne voient le monde qu'en rouge ou en noir. Je les mets d'ailleurs en garde contre ces discours toujours négatifs, anxiogènes et culpabilisateurs qui n'ont pour effet que de faire croître la colère, l'inquiétude et la défiance à un moment où l'on voit bien que nous allons devoir renforcer les liens. Moi-même et les élus de notre groupe abordons ce budget de manière très positive et c'est tout le message que je veux faire passer aujourd'hui aux Puy-de-Dômoises et Puy-de-Dômois. L'avenir nous appartient et le département sera à vos côtés. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Bah écoutez, les discours de politique générale ont eu lieu. Je vous propose de vous retrouver à 14h. Je vous souhaite un bon appétit. Merci à tous.